Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour. L'interview du jour.
La cour singulière, les acteurs de la cour singulière, Hélène et Olivier au micro de RDWA aujourd'hui, pour nous parler déjà de cette compagnie. Quelle est cette compagnie? Quelle est son histoire et ses valeurs?
Ouh, ses valeurs.
Donc elle a 12 ans, notre compagnie.
Elle est née en 2000. Oui.
En fait, 2000. C'est notre rencontre qui a... Ouais. Voilà, on n'était pas du tout dans la marionnette avant. Ça s'est fait un peu par... plaisir et par hasard, en fait, on a monté un texte d'un poète anarchiste qui s'appelle Gaston Coutet, un poète paysan, qui parlait de la vieillesse. En fait, on a sur 4 spectacles, il y en a 3 qui abordent le thème de la fin de la vie. Et celui-là, c'est un poème que moi j'aimais beaucoup. Et on a juste fait une petite marionnette comme ça. Et pour des amis, on a fait un petit spectacle sur ce poème. Et ils nous ont dit, mais ça, faut le présenter dans les festivals. Et on y est allé, on savait même pas que marionnettiste c'était un métier. Et voilà.
Oui,
et
on a commencé. Premier festival, c'était Mirepoix, en Ariège. Et du coup, très très vite, ça... ben, en fait, on a démarré super vite parce que la forme a vachement plu. Et du coup, on a eu très vite des programmateurs. On s'est retrouvé très très vite programmé. Et tous les 2-3 ans, on sort un nouveau spectacle. On met vachement de temps à mettre en scène, en gros, quoi. On prend vraiment le temps, quoi, là-dessus. Et chaque fois, bah, là, c'est notre 4e spectacle, et bah, ça marche toujours aussi bien, voilà.
On dit souvent que ce qui est innovant, c'est aussi ça qui plaît, et c'est vrai que vous proposez quand même quelque chose d'atypique. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu en détail sur ces créations que vous proposez?
Alors, ce spectacle-là qu'on va jouer demain, c'est donc Josette et Mustapha. Donc, c'est l'histoire d'une marionnette octogénaire échappée d'un EHPAD, Josette. Et en fait, ce qui est atypique, c'est qu'au lieu de juste jouer le spectacle, en fait, on propose aux gens qui achètent le spectacle de venir 4 jours avant, de fabriquer des marionnettes avec les habitants. Et en général, on aime bien mélanger les âges. Donc, on travaille avec des MARPA ou des EHPAD et puis des gens de l'extérieur. On fabrique des marionnettes donc de vieux, puisque c'est un sujet qui parle de la vieillesse et de la fin de la vie. Et le 4e jour, donc, il y a cette sortie des vieux qui ont été fabriqués, qui est un peu une manifestation poétique. Pour nous, voilà, on interroge la place de la vieillesse dans notre société. Donc c'est voilà quelque chose d'assez court, hein, parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de temps.
Oui, puis donner une visibilité, quoi. Aussi, c'est une visibilité, donc de voir ces pseudo personnes âgées, quoi. Et en même temps, pour les participants à l'atelier aussi, c'est un peu l'aboutissement, puisqu'ils vont être dans une pratique donc face au public, quoi. Littéralement, quoi.
C'est une belle aventure, quoi.
Ouais, c'est chouette.
Voilà, on a eu peur. Moi, je pense toujours à Suzanne, 103 ans, qui est venue se fabriquer un petit jeune de 80 ans et qu'elle a amené après. Tous les matins, elle sortait dans son EHPAD avec sa marionnette et elle faisait le tour des résidents avec sa marionnette, qui était magnifique, d'ailleurs. Ouais. Enfin, voilà. Donc, à chaque fois, c'est des aventures et ils construisent à deux aussi. Donc, du coup, c'est vraiment des rencontres parce que créer à deux, c'est pas rien. Et puis après, la marionnette appartient... aux deux en garde alternée. Donc ça donne aussi des liens qui durent. Enfin, par exemple, il y a un projet l'année dernière qui s'est fait. Ben, le jeune comédien, il est parti avec la marionnette, mais à chaque fois qu'elle sort, sa marionnette, il envoie des photos à la femme de l'EHPAD avec qui il l'a construite. Donc
ou des gens qui vont visiter la personne qui était seule dans un EHPAD aussi.
C'est chouette, ça.
Et puis on se sert aussi des nouvelles technologies, des réseaux sociaux en quelque sorte, puisque à chaque fois il est créé par Marina qui bosse avec nous une session WhatsApp, ouais. Un groupe WhatsApp. À chaque session qu'on a fait, il y a un groupe WhatsApp et qui continue au-delà de nous, puisqu'au bout d'un moment, nous, on n'est pas trop réseaux sociaux, enfin tout ça. Donc au début, on est un peu présent, puis après, on laisse le truc qui tourne tout seul, quoi.
Il y a qui dans le groupe WhatsApp?
Tous les participants.
Et aussi ceux qui... Bah, comme ici, par exemple, il y a ceux du théâtre aussi hein, qui sont présents. Donc, ça permet de voir les photos. De... Puis ça continue au-delà de nous. Quoi. C'est ça qui est chouette. Et puis, juste une précision, c'est que là, nous, on arrive pendant 4 jours. Et Josette, notre personnage donc, principal, pendant les 3 premiers jours, en même temps, on décline des petites formes où elle va visiter en fait, des endroits. Ça peut être une école. Elle fait une sortie par jour et elle va à la rencontre des gens. Et en fait, le dernier jour, ce spectacle, c'est pour le spectacle, en fait. Les gens, du coup, viennent à sa rencontre. Ou à travers le spectacle, qui est un peu... où le montage est un peu spécial.
On va raconter, mais...
Et en même temps, elle est inscrite sur le plateau et elle n'est pas forcément
d'accord avec nous.
Voilà. Ouais. Voilà, on est...
On a mis dans ce spectacle aussi toutes nos interrogations par rapport à la place des vieux ici, et en même temps voilà, Josette elle a aussi sa vision des choses. Nous on est plein de bons sentiments, mais elle est dans la vie, elle se sent pas forcément vieille. Donc voilà, des fois
puis ça, elle peut être chiante aussi.
Oui, elle est chiante
en fait. On met un petit peu tout ce qu'on a croisé, et c'est rigolo parce que les gens le public se reconnaît quoi, parce que c'est commun à tous quoi.
Et le public a envie de retrouver Josette, du coup, et c'est ce que vous disiez, vous allez donc dans des écoles. Je sais que là, on se parle dans le cadre de votre passage à Lucondua, vous êtes allé sur le marché ce matin. Comment les gens réagissent quand ils rencontrent Josette pour la première fois?
Ils sont... Certes, il y a plein de réactions. Il y a ceux qui ont peur, évidemment, puisque c'est quand même une marionnette hyper réaliste qui peut être impressionnante. Nous, dans
surtout
la manière...
Surtout quand on s'y attend pas, en fait.
Oui.
Parce qu'on se dit, mais c'est quoi, c'est vivant, c'est pas vivant.
On essaye de pas, justement, d'arriver doucement sur les gens pour pas qu'ils aient ce choc. Parce que c'est un choc aussi. Et après, il y a ce côté... un petit peu spectaculaire où tu as de l'étonnement.
C'est pour ça aussi que Josette, elle fait un peu d'accordéon. Elle a fait de l'accordéon sur le marché parce que la musique permet aussi... Voilà, les gens, ils sont rassurés. Elle est en spectacle, elle joue d'un instrument. Enfin, du coup, on la regarde en tant que spectateur. Parce qu'en fait, je pense que les gens aussi ont peur d'être pris à partie. C'est pas forcément hyper agréable.
Oui, il y a ce truc aussi. Ouais. Puis après, nous, on se sert de la marionnette comme... Comme à l'époque, la marionnette, c'était pour les adultes, quoi. Là, aujourd'hui, nous, on ne travaille pas pour les gosses, hein, en fait. Là, c'est ouvert à partir du 8 ans. Les familles peuvent venir, il n'y a aucun problème. Mais on prévient d'entrée qu'il y a du texte, il y a des choses que les enfants ne comprendront pas, forcément.
Il y a la présence de la mort.
Mais oui, il y a tout ça. Oui. Et l'idée, c'est de dire aux gens, bon, welcome, mais si ça jacte un peu trop, vous avez le droit de quitter un autre spectacle, enfin le spectacle qu'on donne, en plein milieu, il n'y a aucun problème pour nous, quoi. C'est juste que chacun est libre de faire ce qu'il veut là-dessus, quoi. Et de pas que les gens stagnent pas, et que du coup, ça, au niveau de l'écoute, quoi, c'est super. Je sais plus ce que je vais dire.
Vous avez l'air de mettre toutes vos compétences, vos qualités de vie, votre humanité à cœur dans ce spectacle-là, justement par rapport au fait que Josette joue d'un instrument. Et puis du coup, c'est un public particulier que vous touchez, un public qui est parfois oublié aussi. Est-ce que tout ça, c'est aussi une... Quel lien ça a avec vos émotions et vos ressentis?
Moi, j'aime vraiment... j'ai très peur des cases dans lesquelles on essaye de nous mettre et dans lesquelles on se met aussi chacun à rester dans notre milieu avec des gens qui pensent pareil. Et je trouve que c'est super important, surtout dans l'époque où on vit, de croiser des gens qui ont rien à voir aussi, enfin qui pensent différemment, qui ont pas le même âge, qui ont pas les mêmes habitudes culturelles. Et je trouve que c'est tellement riche, et c'est ce qui se passe. Dans l'atelier, et souvent le public de notre spectacle, comme on joue pas forcément, on joue souvent dans des petits villages ou avec des gens qui vont pas forcément pousser la porte d'un théâtre. Et ben là, on a fait des rencontres magnifiques, et on a un petit livre d'or avec des mots, mais des fois ça, voilà, nous, ça nous ça nous tient, enfin ça nous renforce dans cette démarche là je sais pas, par exemple, je me rappelle du mot d'une jeune fille qui m'a dit, bah moi là le spectacle ça me donne envie d'aller voir ma grand-mère plus souvent.
Ah bon, ouais. D'aller chercher, on a eu des endroits où il s'est passé un truc, c'est que les gens sont, nous on cherche pas à donner des leçons ou quoi que ce soit.
On pose des questions. Qu'est-ce qu'on fait à nous, à être parti comme ça. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans en EHPAD. J'animais des ateliers de sculpture et j'ai travaillé avec des gens qui avaient la maladie d'Alzheimer et j'ai rencontré des femmes mais extraordinaires avec qui me reconnaissaient pas d'une séance sur l'autre, mais avec qui on a eu des crises de fou rire, qui ont fait des sculptures magnifiques. Elles avaient la maladie d'Alzheimer et c'est dur pour elles, pour leur famille. Mais en même temps, malgré ça, il y a un appétit de vie, une façon d'habiter l'instant présent qui est extraordinaire et on n'en entend jamais parler de ça. On parle vraiment de la vieillesse, la décrépitude. On est quand même dans une société où... c'est ça qu'on essaye
Justement, on va tous vieillir, on va tous mourir. L'idée, c'est de ne pas se retrouver dans des mouroirs, parce que littéralement, il y a des mouroirs. En plus, c'est devenu un business. Bon, après, tout est business. Ouais. Mais à un moment donné, c'est où on se situe en tant qu'espèce humaine, au niveau de l'éthique, au niveau de pouvoir se regarder, quoi, de se dire, bon...
On a besoin les uns des autres, quoi. C'est vraiment...
Puis il faut accepter le fait de... Moi, par exemple, au niveau de ce spectacle-là, je sais pas, par exemple, j'ai un grand-père qui a été fondateur... pour ce que je suis aujourd'hui. Et puis aussi, j'avoue que j'approche de la soixantaine et ça me fait flipper, quoi. Parce que dans ma tête, je suis un cabri, quoi, quelque part. Enfin, je crois.
Peut-être, bien sûr. C'est une façon d'apprivoiser, ça aussi, qui n'est pas évident, mais se poser les questions.
Puis c'est aussi une manière de... Je reviens sur des choses qui ont été dites, mais d'intégrer tout le monde dans la société. Parce que là, l'autre fois, on était sur un festival, c'était sur le handicap. Donc, il y a des gens qui sont muets ou sourds, par exemple. Je veux dire, dans notre environnement personnel, par exemple, le nôtre, on n'a pas de potes qui sont sourds ou muets. Au final, on fait le tour, non? On a des gens en fauteuil roulant, on a des gens qui sont vieux, on a des gens qui sont de couleurs différentes, mais on n'a pas de sourds et de muets, par exemple. Et je me dis, mais oh! C'est trop...
C'est
cloisonné, alors que tout le monde a une richesse. Mais... Et puis, on en a besoin. Si on commence à tous être beaux, blonds et compagnie, on sait ce que ça donne.
On a évoqué un peu, du coup, le côté thérapie, le côté d'avoir des remerciements des gens qui découvrent votre spectacle. Qu'est-ce que ça vous apporte aussi, personnellement, justement, d'aller à la rencontre... de différents publics, est-ce que vous vous déplacez régulièrement et avec quoi vous repartez à chaque fois?
Déjà, oui, on se déplace beaucoup, surtout là, cette année, l'année prochaine, je pense que ça va être pareil. En fait, c'est d'aller, pour nous aussi, nous bousculer. On évolue comme tout le monde, hein, dans un microcosme avec d'amis, tout ça. Bon, c'est très ouvert, hein, à la fois. Mais ça nous permet, par exemple, d'aller rencontrer des gens qui sont dans le Nord. Alors que nous on est dans le sud et c'est quand même une autre planète. Et puis chaque fois on embarque des gens, des histoires, des rires, des...
Et parfois on rencontre aussi des gens qui, par exemple, qui n'ont pas du tout les mêmes opinions politiques et avec qui on se dit, et on se rend compte que au-delà de ça, il y a quand même une ouverture d'esprit. Enfin, la rencontre se fait. Des gens qui nous on est souvent hébergés chez l'habitant. Et voilà, on a été hébergés par exemple dans une famille de gendarmes, qui n'étaient pas hyper ouverts, qui étaient même racistes, mais on a pu aborder le sujet tranquillement parce qu'ils nous ont, sans nous connaître, donné les clés de leur maison. Du coup, la rencontre se fait et ça, c'est, pour moi, c'est précieux parce qu'on est chacun sur son quant à soi et en fait, il faut vraiment qu'on arrive à refaire des ponts.
Ou semer des petites
graines. Ouais, puis eux aussi, enfin, je veux dire, c'est ça, c'est que c'est pas que nous, c'est aussi eux, en nous laissant les clés de leur maison, ça nous change l'image de quelqu'un du Front National qu'on peut avoir, par exemple, aussi. Et on se dit, parce que nous aussi, on est dans le jugement, des deux côtés, donc les petites graines s'échangent, quoi.
La réalité de notre petite expérience, c'est que finalement, tu as d'un côté les médias, que ce soit Téloche et compagnie, qui sont en train de te dire attention, attention, le racisme, nanani, nanana, le Front National, tout le monde, nanana, en gros. Et puis au final, sur le terrain, non, les gens se côtoient, ouais. Les gens se mélangent. Il y a des gens qui ne s'aiment pas entre eux, sous des prétextes différents. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter, tu vois, du genre du traité. Les gens du Front National, et là je défends pas le Front National, je tiens à dire, de fachos, à un moment donné, il faut faire gaffe quand même, parce qu'on croise des gens qui sont du cru, qui flippent, beaucoup de peur, mais ça fait pas d'eux des nazis, quoi. Il faut arrêter avec ce genre de discours, parce que je mets ça sur le tapis, parce que c'est récemment, on s'est retrouvé confronté à des discussions comme ça, avec nos potes, en disant attention, tu peux pas traiter les gens, ok, ils ont voté Front National et tout. C'est pas mes opinions, évidemment. Mais voilà, j'ai l'impression que sur le terrain, c'est pas la réalité, quoi. Donc faire gaffe un petit peu à tout ce qu'on nous met dans la tronche, quoi, tout simplement.
Voilà. Et pas répéter ces choses-là aussi.
Oui, ouais.
Parce qu'il y a beaucoup de ça, je pense. Quelqu'un écoute ça et on se dit que...
En fait, les médias ont un rôle, enfin, les médias, voilà, les BFM, les trucs comme ça. Enfin, c'est terrible, quoi.
Ouais. Et vous avez une manière autre de diffuser votre spectacle, vos idées et ce que vous défendez justement?
Ouais, c'est justement dans l'intérêt du spectacle vivant, c'est de personne à personne et puis ça passe par l'émotion, la poésie. Je trouve que la poésie c'est un bon moyen parce que du coup c'est pas le cerveau, c'est pas la réflexion que tu viens toucher en premier, c'est juste, c'est plus, pour moi c'est plus le ventre, le cœur qui prend quelque chose et puis du coup qui peut s'ouvrir. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est pas intellectuel, en fait, quand on travaille avec des images poétiques, beaucoup dans le spectacle. Et du coup, voilà, ça vient toucher les gens différemment.
Oui, c'est une forme de... Si tu parles de mon militantisme, évidemment, on a déjà milité sur des... Par exemple, chez nous, il y avait le projet d'extraction de gaz de schiste. On est proche du Larzac. Et du coup, on s'est mobilisé, mais comme tout le monde, ça touchait la flotte, donc beaucoup de gens se sont... Et justement, dans ce genre de lutte, on est très mélangés, c'est super intéressant. Après, moi, je suis pas un militant, je fais pas beaucoup de manifs, tout ça, je m'y reconnais pas. Bon, peut-être plus, les Gilets jaunes, évidemment, c'était quand même un endroit où il fallait un petit peu être, quoi, j'imagine. Ouais. On l'a fait un peu, mais on n'a pas été digne des Gilets jaunes, enfin, pas en tout cas.
Est-ce que pendant ces jours que vous passez avec les personnes âgées, c'est des thématiques que vous évoquez avec eux? Est-ce qu'il y a un moment où vous avez l'impression qu'ils s'ouvrent un peu plus facilement? Là, hier, quand on a pris quelques sons, déjà, il y en avait certains qui disaient qu'au début, ils pensaient qu'ils n'y arriveraient pas et qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ils étaient capables. Et donc, on sent même dans leur voix un certain enthousiasme. Est-ce que du coup, ça ouvre des discussions qui peut-être n'ont plus l'habitude d'avoir en étant un peu isolé aussi, quoi.
Oui, justement, parce que souvent, donc, pour cette manifestation qu'on fait avec eux, on leur demande, mais qu'est-ce que vous avez envie de dire aux plus jeunes? Alors, on parle de la vieillesse, mais vous êtes très bien placés pour en parler. Et il y a eu, par exemple, je pense à une petite dame, quand on était vers Giverny, qui a voulu faire une banderole en disant... on est en EHPAD mais on est là, enfin voilà, parler de la présence, que c'est pas parce qu'ils sont un peu loin, parce que malheureusement souvent les EHPAD elles sont un peu loin des centres-villes, mais voilà, les personnes restent là et quand on voit comment ils nous accueillent, ils sont hyper ouverts à toute rencontre et puis que le fait d'être qu'entre vieux c'est quelque chose qui est pas normal, quoi. Donc oui, il y a nécessité d'avoir des endroits pour les accueillir, mais ces endroits, et ici je trouve que la directrice en plus est hyper ouverte à ça, et ça pourrait être des lieux de vie, pour des lieux d'échange, et il y a des EHPAD dans lesquels on monte des cafés, des bars, des cantines mises pour les demandeurs d'asile et pour les personnes âgées, où ils peuvent se retrouver. Il y a plein de choses qu'on peut inventer, où on se mélange, quoi. Parce que pour moi, donc il y a une phrase que Josette aime bien dire et que moi j'aime bien, c'est que quand tous les âges sont mélangés, chacun retrouve sa place. Et ça, c'est tellement vrai. On a travaillé avec des ados et des personnes âgées sur un atelier de théâtre d'objets. Et les ados, elles demandaient à revoir la personne avec qui elles avaient travaillé. Elles ont fait des selfies qu'elles lui ont envoyées. Parce qu'il y a cette soif. Mais je pense qu'il y a vraiment un besoin de ouais, voilà. Puis on a besoin de l'âge de l'autre, comme les personnes âgées ont besoin de voir des jeunes, des enfants. Et puis
il y a
et
des
nous aussi,
où
quoi.
Il n'y a plus de vieux. Hein. Je sais, il y a un film japonais qui est sorti il y a 2 ans, je crois. C'est une jeune cinéaste japonaise. Ça s'appelle Plan 75. C'est un film vraiment à voir, puisque l'idée, c'est que suite à la population jeune qui trouve qu'elle bosse beaucoup trop pour les vieux, qui sont plus productifs, ils mettent en place le plan 75, c'est permettre à des vieux d'accéder à l'euthanasie. Mais en même temps, ce film comme finit par dessiner aussi une vraie coupure entre les anciens et les jeunes. Et les jeunes, à travers ça, puisqu'ils sont employés pour faire signer les vieux, finissent par rencontrer ces personnes âgées qu'ils n'avaient pas rencontrées, dont ils étaient coupés, et commencent à se questionner sur ce truc-là, justement. Et pour certains, réinstaurer une relation vieux-jeune qui a a priori moins au Japon et d'autres endroits, d'accord.
C'est vraiment important d'avoir cette réflexion-là, je trouve. À l'époque où on va peut-être adopter cette loi-là sur l'euthanasie, on est dans une société où il y a tellement où tout ce qui n'est pas productif ne sert à rien, qu'on va peut-être pousser des gens à demander l'euthanasie parce qu'ils vont se sentir un peu enfin en grossissant, hein, ça, on peut aller faudra faire attention à cette dérive, quoi.
Oui,
même si
ça.
C'est bien de gérer chacun puisse gérer sa faim comme il a envie, mais dans une société où quand t'es plus productif et que tu ramènes pas de fric ou que tu sers à rien, où on dit que enfin tu vois
comme les ados,
ouais.
Parce qu'à un moment donné quand on a conçu le spectacle, on avait cette envie aussi à un moment donné qu'on n'a pas traité au final, mais on avait tu sais les ados en fait à la préadolescence Après, au final, l'âge de l'adolescence s'est élargi. Ils sont tous chiants et improductifs, en gros.
Ouais.
Et alors que les vieux, c'est pareil. Il y a très jeunes, à partir de la retraite, ils sont encore valides, tout ça. Mais plus ça avance, et chaque fois, il y a des tranches en fait, qui sont découpées. Pareil, ils sont chiants, ils sont plus productifs. Donc, au final, il reste les bébés, mais c'est mignon, tout ça. Et puis après, les gens, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui sont encore productifs. Et c'est intéressant, on voulait faire un parallèle, et on l'a fait dans un atelier au final. Et c'est super intéressant.
Ouais, À quel moment vous avez eu envie justement d'évoquer la thématique de la mort, où vous avez dit que c'était important de l'apporter avec une certaine légèreté, du coup aussi, mais pourquoi travailler sur cette thématique ?
Alors, moi, c'est une thématique depuis que je suis enfant qui me questionne, en fait. J'ai des parents âgés, et donc peut-être ça... Et puis une fois, je me rappelle, enfant, je suis allée visiter un oncle dans une maison de retraite, et je me suis perdue dans les couloirs, et il y a un vieux monsieur qui m'a attrapée par la main, moi, je devais avoir 7-8 ans, et qui m'a dit « fais-moi sortir d'ici ». Et du coup, je pense que c'est pas pour rien, après, que j'ai travaillé dans les maisons de retraite. Et en même temps, moi, je trouve que... C'est cette fin de vie, et quand tu côtoies la mort comme ça, quand c'est la dernière chose que tu peux, c'est la chose que t'attends, je trouve que ça, c'est hyper courageux, pour moi c'est héroïque, ces moments là c'est pas, on les met pas en avant, et pourtant c'est, je trouve que il y a les gens qui atteignent cet âge là il y a souvent une grosse philosophie aussi, il y a besoin de philosophie, et il y en a pas mal qui l'ont, à la fois à l'attendre, à la redouter, ce va-et-vient avec la mort, et je trouve que c'est je trouve que c'est une sacrée
Moi, je sais que pour ma part, je suis pas mort, mais j'ai eu un grave accident. Donc il y a un moment où je me suis dit il suffit que tu sortes de ce bâtiment, tu glisses sur quelque chose et bam, t'es mort, quoi. Donc c'est aussi simple que ça, la mort. Et du coup, à un moment donné, la redouter, moi je trouve que les sociétés qui en font leur allié, c'est beaucoup plus intéressant, tu vois. L'autre fois,
je pense. De nous nourrir d'une angoisse.
Ouais, et puis.
Je crois que c'est les Amérindiens qui disent que quand tu nais, il y a la mort qui s'assoit sur ton épaule gauche et qui reste avec toi toute ta vie, qui t'accompagne. Et je trouve que l'image, elle est plus.
Oui.
Un petit
diable
sur l'épaule gauche.
Oui.
C'est rigolo. J'écoutais une vieille émission sur justement vieillissement et la mort. Et il y avait un mec qui disait que quand les explorateurs avaient été en Afrique, ils étaient tombés sur des tribus qui mangeaient des ossements humains. Et qu'un gars disait, mais peut-être que tu sais, t'as des endroits où ils ressortent des os, ils les nettoient. Des fois, ils mangent, tu sais, ils se transmettent l'énergie, l'âme, tout ça. Ouais. Et des fois, je sais qu'il y a une société, par exemple, le vieux était fier d'être bouffé, tout simplement. Alors, ça paraît bizarre, mais ça choque, tout ça. Je me dis peut-être c'est normal aussi. Enfin, en tout cas, pour eux, c'était normal. Nous, on a du chemin à faire au niveau de l'acceptation.
Parce qu'on s'est engendré vachement. Le transhumanisme avec cette époque où maintenant on pense pouvoir vaincre la mort et tout ça. Jeunisme éternel. Mais c'est hyper flippant, ouais.
Blanche Gardin, elle a un moment dans son sketch où elle dit comme ça que c'est les mecs qui veulent éradiquer la mort. Mmh. Et elle a dit, mais c'est flippant.
C'est dingue de dire que l'être humain pense pouvoir avoir le contrôle sur des choses immuables qui sont là depuis le début de l'univers. Quoi. Enfin,
c'est une arrogance, c'est une sacrée arrogance.
C'est des cycles, tout est fait pour mourir, disparaître, renaître, après ça dépend de
C'est un peu égocentrique en fait.
Après tu sers d'engrais quoi, tu te transformes en pétrole, il paraît. Non mais il y a un cycle, comme tu dis, il y a un cycle, on fait partie d'un cycle.
Et puis ça nous remet ensemble dans le cycle et puis ensemble avec ceux qui étaient là avant et ceux qui viendront après. Et ça, je trouve que c'est rassurant de se dire qu'on fait partie de cette grande chaîne humaine, vivante.
Oui, puis le fait d'éradiquer la mort, mais c'est la fontaine de Jouvence, tout ça. Ok, c'est un mythe, c'est chouette de se l'imaginer, mais il faut que ça reste de l'imaginaire, de la science-fiction, tout ça, parce que si un jour, effectivement, on découvre quelque chose comme ça, mais ça, déjà, c'est pas tout le monde qui en profitera, déjà. Puis dans quel état?
Et
puis.
Ouais, voilà.
Ça sert à quoi? Non, et puis on est vachement. Bon, après, je dis ça, mais il y a des gens qui ont perdu des personnes proches. Oui. Nous aussi, on a perdu. Ouais. Mais bon. Voilà.
Ok.
Merci beaucoup.
Merci.
You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my Daisy. Daisy, Daisy, désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris, tant pis, ne t'en fais pas. Et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste on s'en fout. You are the one for me, for me, for me, formidable. Je me demande même pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout, avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you? Ouvre les yeux.
prisonnier du doute, pas vraiment du passé. Trop d'ombre sur la route, je vois plus les tracés. Et je me rappelle en folie mon panel de prolo. J'ai la mélancolie du bordel en colo. Rire de tous nos sens et des heures à vanner. Insolente innocence de mes plus belles années. Composé d'événements imparfaits, un passé pas si simple, des sourires en trophée. Puis la mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur. Déconfiner l'espoir, pour continuer d'y croire, je t'envoie un faire-part. Le faire-part du mariage entre nostalgie et destin. Quand l'un nourrit l'autre, faire du futur un festin.
Je veux retrouver l'attrait de notre vie d'après. Il est temps d'entamer. Oh, où sont passées nos plus belles années? Elles s'éloignent lentement. Où sont passées nos plus belles années, l'avenir. Oh, où sont passées nos plus belles années? Elles s'éloignent lentement. Où sont passées nos plus belles années? L'avenir nous les rend.
Où sont passées? Où sont passées?
Puis la mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie, des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur.